Alors, c'est un peu interloquant et c'est un honneur aussi de commencer ce congrès du Reiki sans faire du Reiki. Voilà. Donc, que vous sachiez, je vais vous expliquer mon parcours, que ça ait du sens que je sois là. On a à peu près 1 heure de conférence. On fera environ un quart d'heure de questions à la fin. Et j'ai pensé aller dans ce sens-là. Donc, tout d'abord, vous expliquer un peu mon cheminement. Et puis ensuite parler des auras en général ou de ma perception. Après parler peut-être de l'aspect des perceptions et puis ensuite de tous les corps. Normalement en 1 heure je devrais y arriver. Et puis ça vous laissera un temps pour les questions. Vous entendez pas? Ok, je parle plus fort. Ah, il a mis plus fort. Ça va? Vous m'entendez? Ok. Si à tout moment vous m'entendez pas, vous me dites peut-être que le micro je l'éloigne un peu trop et voilà. Donc tout d'abord, je me présente. Donc mon nom, c'est Sophie Mégard. Et on m'a invitée là parce que à partir de très jeune, j'ai commencé à entretenir une relation avec les auras, donc avec les corps énergétiques. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'avais 15 ans, ma mère, elle a fait des cours de naturopathie. Et dans ces cours de naturopathie, elle a eu des cours sur les chakras et des cours sur les auras. Et en rentrant de son cours, elle m'a expliqué tout ça. Et quand on a 15 ans, peut-être vous savez, vous avez eu 15 ans ou vous avez des enfants qui ont 15 ans, c'était pas très intéressant pour moi. Donc j'écoutais à peine et puis elle me parlait de ce truc qui était autour des gens et j'ai dit ouais, il y a cette lumière autour des gens, et puis il y a la lumière normale et puis il y a ton truc. Et alors elle m'a dit mais quelle lumière normale? Alors j'ai dit ben comme autour des bougies, comme autour de la lune quoi, normal. J'avais 15 ans quand je me suis rendu compte que ce que je voyais de normal n'était pas normal. C'était comme dans Astérix et Obélix. Le ciel, il m'est un peu tombé sur la tête. Vous savez, voir des choses que les autres voient pas, ça fait chic dans les soirées, c'est très sympathique. Mais voir quelque chose auquel les autres ne croient pas, ça ouvre beaucoup de questionnements. Et ça a été, je pense, un long chemin et un long questionnement. Ça m'a amené à chercher pas mal de réponses un peu dans toutes les directions. Ce qui s'est passé assez vite, en fait, c'est que j'ai commencé à guérir des gens, donc j'avais 16 ans. Les gens venaient de plus en plus loin et ils ne me payaient pas, et ils me donnaient des choses, en fait. Et après, les gens ne savaient plus quoi donner, voulaient un prix, alors ils donnaient ce qu'ils voulaient. Et puis après, j'ai eu 18 ans, je suis allée à l'université. Il n'y avait pas les auras à l'université. Je ne savais pas quoi faire. Médecine, ça paraissait incroyable, parce que c'était tellement loin de ma réalité, et puis sans doute de mes capacités scientifiques aussi. Et j'ai fait psychologie. Je m'y suis pas vraiment retrouvée, j'y suis pas beaucoup allée, mais enfin, ils m'ont donné un diplôme. On fait pas beaucoup de thérapie en psychologie, hein, ça se passe après. Voilà. Et donc, j'ai continué dans la psychothérapie, j'ai essayé d'explorer ces perceptions, j'ai continué de guérir les gens pour payer mes études, j'étais plus chez moi, enfin, chez mes parents. Et ça m'a amené à beaucoup pratiquer. Quand j'ai eu 25 ans, on m'a dit, mais pourquoi tu n'enseignes pas ce que tu fais? Et j'ai commencé à enseigner. Donc j'ai 42 ans aujourd'hui et ça fait des années de consultation. Quand je suis arrivée à 30 ans, j'avais consulté la moitié de ma vie, depuis pratiquement, voilà, des années de consultation. Et à travers l'enseignement, je me suis rendu compte que ce qui me paraissait le plus simple et le plus abordable, je voulais le mettre au premier séminaire. Donc je disais aux gens, si tu veux travailler sur l'aura de quelqu'un, c'est simple. Tu le regardes et tu fais rien. Je trouvais que c'était bien pour un début, c'était simple. Et on me disait, ah, je fais rien, mais rien. Je pense à l'amour. Non, tu fais rien. Ah. Mais pendant que je fais rien, je lui envoie de l'amour. Non, tu fais rien. Ça a rien donné. J'ai laissé tomber ça, maintenant je le mets au cinquième week-end. On fait rien. Au cinquième week-end. Avant, on fait beaucoup de choses. Donc, j'ai commencé à enseigner pas mal de choses que je faisais pas tellement moi-même, en fait, mais qui ont beaucoup plu aux gens et qui ont permis de développer pas mal de perceptions. Donc, c'est de ça que j'aimerais témoigner. Après, il faut bien être conscient que si on reste au vocabulaire, si on reste au terme, et ce que j'ai appris des chakras dans le Vedanta, ou ce que j'ai appris des chakras dans le Cachemire, ou de ce que j'ai appris, on va se battre sur des terminologies, on va faire de la philosophie et on n'aura rien partagé. Donc c'est sûr que si vous savez des tas de choses sur les chakras, peut-être vous en savez plus que moi ou vous avez plus de terminologie, mais c'est pas de ça dont il est question. Et ce que je vous propose là, c'est plutôt de lâcher le vocabulaire et d'essayer d'entrer dans ce que ça signifie ou dans la perception de ce que ça vous crée, d'imaginer ce genre de domaine. Et donc, je vais essayer de témoigner de la manière dont j'ai abordé les choses à travers toutes ces années, comment ça a évolué pour moi, et surtout ce que j'appelle, moi, percevoir les auras, qui, je me suis rendu compte à travers ma carrière, n'est pas du tout ce que les gens attendaient que je fasse. Voilà. Pour commencer, les gens pensaient que voir les auras, c'était voir des lumières rouges, bleues, vertes autour de la tête des gens. Alors, je vous le dis tout de go, je ne vois pas de lumière rouge, bleue, verte autour de la tête des gens. Voilà. Il y a un corps, on le dira tout à après, qui est très coloré, qui est le corps astral. Et en effet, les gens qui sont réceptifs à ce corps ont tendance à avoir des couleurs. Je pense surtout au début de la pratique aussi, parce qu'après, il y a une perception plus globale qui peut s'installer. Et donc, je vous parlerai un peu des perceptions plus tard. Voilà, je vais commencer par les auras en général. Vous êtes beaucoup, et donc les petites choses que je vais utiliser, comme le tableau ou ces petits cartons que j'ai, vous les verrez peut-être pas très bien au fond. C'est un peu mon doudou, le carton. Alors au pire, dites-vous que c'est pour moi, et puis j'explique ce que je montre. Mais j'ai donc ce carton qui me permet souvent d'expliquer ce que moi j'entends par les auras. Et voilà. Les couleurs n'ont aucune signification particulière. Au milieu, on a un corps physique, et puis on a des couches autour de certaines grandeurs, plutôt ovoïdes ou plutôt de la forme du corps. On va discuter ici des auras en considérant 5 corps. Dans beaucoup de traditions, il y en a 3. Dans certaines, il y en a 2. Ça dépend le focus qu'on met. Si vous allez en Amérique du Sud, enfin toutes ces voies Toltec, il y a 2 mondes, donc il y a 2 dimensions. Si on va dans certaines visions hindoues, parfois, on a le corps physique, le corps émotionnel et le corps spirituel. Et puis, on a ces découpages par 7 qui ont beaucoup été chez nous, en Europe, à travers les voies tibétaines, à travers la théosophie et sans doute aussi Rudolf Steiner. Et donc, c'est plutôt ce qu'on utilise, nous. Mais dans beaucoup de textes, on trouve des choses différentes. Et si vous vous penchez sur les textes du Cachemire, par exemple, il y a des textes où d'une page à l'autre, le nombre des chakras n'est pas le même. Ça, c'est pour relâcher le mental du lecteur. Si le lecteur est européen, des fois, ça le crispe un peu plus. L'idée, c'est que, comme on parle d'un monde abstrait, d'un monde perceptif, on n'est pas dans un monde mathématique. C'est comme si on devait passer d'un référentiel newtonien à un référentiel einsteinien ou je sais pas quoi, ou quantique, où en fait, on doit changer de référentiel. Et dans ce nouveau référentiel, certains de nos mots sont trop limitatifs. Mais si on n'utilise pas les mots, c'est comme la poésie, on ne peut pas discuter. Donc on discute, on utilise des mots et on sait qu'ils ne sont pas ce qu'on dit, on fait de la poésie en conférence. Voilà. Donc nous, on a plutôt été basés sur 7, et donc dans la plupart des textes que vous lirez chez nous, on parle du corps physique, ensuite éthérique, astral, mental, causal, et les théosophes ont mis atmique et bouddhique. Ça fait 7 corps. Dans la perception, moi je me suis toujours intéressée à la thérapie. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ça, l'aspect thérapeutique. Dans la thérapie, le atmique bouddhique reste très abstrait pour nous. Donc causal, atmique, bouddhique, moi je les ai mis ensemble dans cette idée de causal. Et donc sur mes cartons, pour ceux qui les voient, c'est ce dernier corps qui en fait est infini, on va dire. Donc j'ai un corps physique, un corps éthérique qui a une 15aine de centimètres. On verra ensuite que c'est plutôt le carburant de mon corps physique. Un corps astral qui est plutôt le corps émotionnel. Un corps mental, on verra à quoi je l'associe. Et puis un corps causal qui est plutôt le corps spirituel. Donc, il y a plusieurs choses que moi je vis par rapport aux auras. Et la première est assez particulière, c'est que pour moi l'aura n'émane pas du corps. Dans beaucoup de théories, dans beaucoup de livres, vous verrez que l'aura, elle est conçue comme une lumière ou une émanation, comme ce spot que j'ai sur la tête, qui sort de l'énergie, de la chaleur, de la lumière, et donc on mesure ces émanations et ainsi de suite. Moi, je ne vis pas du tout les auras comme ça. Moi, je vis les auras comme étant quelque chose qui moule le corps physique. C'est-à-dire que pour moi, le mouvement est dans l'autre sens. Il n'y a pas un corps physique et quelque chose qui sort du corps. Il y a un mouvement de l'infini qui se densifie de couche en couche jusqu'à créer la densité la plus dense sur notre planète qu'est le corps physique. C'est comme si vous imaginez un océan et dans cet océan, il y a des tourbillons, et qu'en fait, chaque corps physique ou chaque chose physique est un tourbillon. C'est-à-dire que le tourbillon est fait de la même chose que l'océan, c'est la même matière, c'est la même structure, mais c'est un niveau de densité différent ou de mouvement différent. Donc l'océan n'émane pas du tourbillon. Pour moi, de la même manière, l'aura n'émane pas du corps, mais elle moule le corps et le corps est formé de ces différentes densités. Chaque corps a une densité différente et on est de plus en plus dense, jusqu'à mon corps physique qui est le plus dense, le plus compact. La deuxième chose que je vis vraiment profondément, c'est que l'énergie n'est jamais négative. Le concept d'énergie négative est vraiment particulier. Pour moi, l'énergie, elle est neutre. L'énergie, c'est de l'énergie. L'énergie qui circule a des effets positifs. L'énergie qui ne circule pas a des effets négatifs. Si vous prenez de l'eau, vous congelez de l'eau, vous faites un glaçon. Le glaçon n'est pas plus toxique que l'eau. Mais vous devez dégivrer le glaçon pour pouvoir boire l'eau. L'énergie qui est bloquée, elle fait mal, elle a des effets négatifs, mais elle n'est pas plus toxique que l'énergie pas bloquée. L'énergie, c'est de l'énergie. Ça circule ou ça circule pas. Quand ça circule pas, ça crée des problématiques. Quand ça circule, c'est mieux. C'est simple. Une autre chose qui a du sens, c'est que chacune de ces couches ou chacun de ces plans, le but, ça, pour moi, serait de tous les vivre. Parfois, des gens ne vivent que dans les densités éthériques physiques et rejettent quelque chose de spirituel. Mais parfois, quand on est dans une démarche, beaucoup de gens vivent des plans plus spirituels et rejettent des densités physiques. Pour moi, toutes les densités ont un sens puisqu'elles sont là. Et je dirais la recherche d'équilibre qui serait le nôtre, ce serait d'être capable de vivre toutes les dimensions en même temps. Faire la vaisselle en étant dans mon causal et méditer en sentant mes doigts de pied. D'avoir la capacité d'être toujours entier, de retrouver notre totalité et en ça notre grandeur, qui est d'être, de vivre sur tous les plans en même temps. Bien sûr que si je médite ou si je dois rendre la monnaie, c'est pas le même endroit où je peux focusser. Mais tous ces plans-là sont en moi et tous ces plans ont une existence. Et l'idée, c'est de vivre cette totalité, c'est-à-dire d'avoir accès à toutes les dimensions. Et je pense personnellement que le corps physique est vraiment une porte pour l'être. C'est-à-dire que c'est vraiment quand le corps est vécu et non pas pensé que je suis vraiment en lien avec des dimensions plus subtiles. L'autre chose, c'est de comprendre, justement, c'est un peu le titre de cette conférence, comment tout ça fonctionne en fait, comment tout ça interfère sur ma santé, sur mon équilibre et ainsi de suite. Donc on va voir ça comme ça. On va dire, d'abord il y a l'énergie. Il n'y a pas de d'abord, mais on va faire comme ça. D'abord, il y a l'énergie. L'énergie, donc mes auras, va influencer à travers les chakras, qui sont des transmetteurs ou comme des transformateurs électriques qui mettent l'énergie de mes auras à niveau pour que mon corps puisse les recevoir. Les chakras qui font ce relais. Donc, il y a l'énergie. Le chakra va permettre le relais et le chakra va directement influencer sur le système endocrinien, tout le système hormonal. Le système hormonal, lui, avec le système autonome et sympathique-parasympathique, va influencer sur ce qu'on va appeler, nous, l'humeur, en fait, qui va, en fait, influencer mes émotions. On le voit avec toutes les influences que les hormones peuvent avoir, par exemple, sur nous, les femmes, par rapport à l'humeur et à notre état émotionnel. Notre état émotionnel va influencer nos pensées. Et nos pensées, elles, ont un impact avec l'intention. Et vous le voyez, je pense, en faisant du Reiki ou de l'énergétique, même si votre intention, c'est d'être canal, il y a une intention de se mettre canal, l'intention va influencer sur l'énergie. Et on a un cercle. Je n'ai malheureusement pas de choses assez grandes à vous projeter pour ça. Mais donc, on a un cercle d'énergie, ça passe par les chakras, le système endocrinien, donc le corps physique, qui va influencer sur l'émotionnel, sur la pensée influence l'énergie. On a un cercle. Au niveau thérapeutique, dans ce cercle, je peux agir à n'importe quel endroit. Je peux faire une injection de sérotonine, je vais avoir un accès sur votre système endocrinien, il va y avoir un effet sur vos émotions, sur vos pensées et sur votre aura. Je peux travailler en emotional release, je peux faire des choses comme la bioénergie, je peux faire du rebirth, des choses comme ça. Travailler émotionnellement, ça va créer des choses dans ce cercle, ça va influencer tous les autres niveaux. vos systèmes endocriniens, vos auras aussi. On peut travailler avec tous ces courants de pensée positive, de choses comme ça, on va avoir un effet sur tout le cercle. Ou on peut, comme avec le Reiki, comme avec le travail des auras, tout le travail énergétique, on peut travailler sur l'énergétique, ça va influencer tout le cercle. En fait, on ne se leurre pas que ce soit le début, l'énergétique. On voit bien que c'est un cercle. Mais nous, par nos capacités, par nos intérêts, par une évidence dans notre vie, peut-être c'est là qu'on travaille. Alors là, ici, ce soir, enfin c'est ce matin, on va faire semblant que c'est là que ça commence, mais on sait que c'est pas une réalité. Ok. Donc tout commence dans l'énergie. Voilà. Et donc quand il se passe quelque chose d'énergétique en moi, il va y avoir un effet sur mon système endocrinien qui va influencer mes émotions, qui va influencer mes pensées, qui va influencer mon énergie et qui va créer des boucles en positif ou en négatif. C'est-à-dire que ça va bloquer l'énergie ou ça va la faire circuler. Donc, avec le micro, ça va être sportif, mais je vais vous faire ça. Il y a ce que je suis, et puis il y a ce que j'arrive à vivre dans ma vie. Et entre ce que je suis et ce que j'arrive à vivre dans ma vie, il peut y avoir un décalage. Entre ce que je suis et ce que je peux exprimer dans ma vie. Et c'est quand il y a ce décalage-là que l'énergie se distord. Quand entre ce que je suis profondément et ce que je vis, il y a un gouffre, alors je me quitte. Et quand je me quitte, mes auras se déséquilibrent et ça va déséquilibrer tout le système. Mais quand je veux être parfait, je me quitte aussi. Je me quitte pas que quand ça va pas. Quand je veux faire mieux, quand je veux faire bien, quand je veux être plus dans le cœur, quand je veux être plus spirituel, quand je veux être plus à l'écoute, quand je veux être autre chose que ce que je suis, je me quitte. Il y a une gouffre entre ce que je suis et ce que j'exprime. Donc il y a tout un cheminement de revenir à ce que je suis maintenant pour pouvoir être dans cet équilibre. C'est un peu comme faire du vélo. On n'est jamais exactement aligné, mais notre recherche, c'est de s'éloigner le moins possible, le moins longtemps possible dans un mouvement. Donc en fait, on oscille là autour. Parfois, on se quitte un peu plus, on commence d'avoir des symptômes. Les premiers symptômes, en général, sont plutôt... nerveux, on va dire. Je peux plus supporter le bruit, je supporte plus les gens dans le bus, je supporte plus les choses, je réponds agressivement à la caissière, je sais pas ce qui m'arrive. Ensuite, ça commence d'être dysfonctionnel. Je commence de mal dormir, j'arrive plus à digérer, j'ai un problème intestinal, mais il n'y a pas encore de lésion. Si je vais chez le docteur, il va me dire faut vous détendre ou il va me dire vous avez rien. Et puis ces choses qui commencent à être fonctionnelles, elles peuvent se chroniciser. Quand les problèmes fonctionnels se chronicisent, je vais commencer à avoir des lésions à force. Un ulcère à l'estomac, une problématique qui se pose dans le corps. S'il y a beaucoup de lésions et que le corps doit toujours parer à ça et qu'il y a un très grand déséquilibre, ça va s'aggraver vers ce qu'on va appeler des maladies auto-immunes ou des maladies plus graves médicalement. Donc notre objectif, c'est d'arriver à avoir un baromètre assez fin de nous-mêmes pour sentir quand on se quitte et revenir directement. C'est-à-dire d'avoir ce mouvement-là. D'une certaine manière, le guérisseur, il peut aider la personne à sentir où elle s'est quittée par rapport aux endroits de son corps qui ne circulent pas, par rapport aux différents corps énergétiques qui ne circulent pas, lui montrer comment elle s'est quittée pour qu'elle puisse revenir à elle-même. C'est ça notre objectif, en fait, avoir une espèce de carte de quand je suis à côté de moi-même. Et des fois, on a besoin de quelqu'un qui m'aide à me voir à côté ou qui m'imagine revenu dans mon être pour qu'on puisse retrouver le chemin vers notre propre être. Quand il y a moins de monde, à chaque fois que je finis un thème, je demande s'il y a des questions. Alors là, je me dis, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions parce qu'on est trop... C'est pour ça que j'ai mes élans comme ça. Je pense que ça, c'est OK. Donc, ça, c'est vraiment la manière dont ça fonctionne et la manière dont l'énergie influence mon corps et comment mes comportements influencent mon énergie. Mes comportements, est-ce qu'ils sont bons pour moi ou pas? On ne peut pas dire tout le monde doit parler tant d'heures par jour. Et puis si je parle pas, je suis malade et si je parle, je suis bien. Non, il y a des gens quand ils se taisent, ils se retrouvent. Il y a des gens quand ils se taisent, ils se perdent. Et ça doit vraiment être personnalisé. C'est vraiment moi, où est-ce que je suis moi? Moi, où est-ce que je me trouve? Point. La perception. Par rapport aux perceptions, on reste sur la même chose. Les gens qui écrivent des livres, je ne sais pas pourquoi, sur les auras, sont particulièrement, enfin souvent, des visuels. Les visuels écrivent des livres sur les auras, alors on a des visions, une vision du monde des auras très très visuelle. Mais en fait, on a plusieurs sens à notre disposition, et en rapport avec ces sens en nous, on peut percevoir les auras de manière différente. C'est pour ça que je ne parle pas de voir les auras, mais de percevoir, dans le sens de tous les sens. On peut sentir un goût quand on perçoit quelque chose, on peut entendre un son, ça peut être des chants, ça peut être des sons, mais ça peut aussi être des phrases. On peut avoir des visions extérieures, j'appellerais ça, c'est-à-dire qu'on voit en effet des couleurs ou des images, ou je sais pas, ou un esprit, ou quelqu'un que la personne aime, enfin on a une vision qu'on voit, qu'on a l'impression de voir avec nos yeux physiques, ce qui n'est pas forcément le cas, mais on a l'impression. Et puis, on a des visions intérieures. On fait un traitement à quelqu'un et puis on voit cette femme petite fille. Hein, peut-être ça vous est arrivé. Une vision dedans où on voit un animal, où on voit visuellement. On peut voir des phrases aussi. On peut avoir des odeurs vraiment très fortes dans un traitement. En fait, tous les sens sont là. Et puis, on peut avoir une façon de percevoir l'autre où on sait ce qui est arrivé à cette personne. C'est comme si on avait lu un livre sur elle hier, et on est là aujourd'hui, on sait son enfance, ou une phrase, ou on sait quelque chose sur sa mère, on a des évidences. On a accès comme ça à une évidence. On sait quelque chose. Tout ça, c'est la perception des auras pour moi. Pour moi, les auras, c'est vraiment tout ce qui existe, jusqu'à l'infini, et toute la manière dont ces choses sont matérialisées. Et percevoir les auras, c'est être en écoute du monde. Et ce qui nous empêche de percevoir, j'en parlais au petit déjeuner, c'est lié bien sûr aussi au fait qu'enfant on a été dans un milieu qui ne comprenait pas, ou si on avait des perceptions, elles ont été coupées, ou les gens avaient peur, ou ils n'arrivaient pas à nous accompagner avec ça, et que ça s'est progressivement coupé après l'âge de 7-8 ans, ça c'est juste. Mais c'est aussi particulièrement parce qu'on a perdu la capacité d'écoute. Quand on était petit, pour la plupart d'entre nous, et peut-être il y a des chanceux ici, on est né chez des gens qui ne savaient pas écouter le monde. On vit dans une culture qui ne sait plus écouter le monde. Et on est rempli d'idées, on est rempli de croyances, on est tellement cultivé qu'on est rempli de culture, on est tellement informé qu'on est rempli d'informations. On est rempli de tellement de choses qu'on a cette peine à juste être là avec l'autre. C'est pour ça que ne rien faire en regardant l'autre, c'est cinquième week-end et pas tout le monde y arrive. Demandez ça à un enfant de 4 ans et le faire. Bon, pas longtemps, mais il le fait. Et d'une certaine manière, on s'est quitté nous-mêmes parce qu'on a quitté la capacité de recevoir le monde. On a quitté la capacité d'être là et d'avoir aucun point de vue. Et si par malchance on est thérapeute, alors c'est 4 fois plus fort. Parce qu'on a tellement appris de choses sur les gens que quand ils parlent, on sait que tiens, il doit avoir ça. Ah là, ce qu'il a dit. Ah, puis oui, avec sa mère. Ah tiens, puis... Il n'y a plus de relation. Parce qu'il n'y a plus de présence. Et la seule chose qui fait la rencontre, c'est deux présences. C'est Martin Buber, qui est un philosophe juif, qui disait, entre toi et moi, il y a un espace. Et dans cet espace, c'est Dieu. C'est la rencontre, c'est l'espace relationnel. Et dans cet espace-là, je suis obligée d'aller nue, intellectuellement, psychologiquement. Et c'est très difficile de rencontrer l'autre à nu, parce que déjà, si j'arrive à être assez lâchée dans mon mental, j'ai encore toute mon histoire qui m'accompagne. Et avec mon histoire, j'ai toutes mes émotions. Et avec mes émotions, j'ai tout et tout et tout. Et je dois laisser tout ça. Et c'est vraiment un chemin de guerrier, d'avoir ce que Don Juan, dans les livres de Castaneda, si vous avez lu ça, appelait une impeccabilité, de pouvoir à chaque fois revenir. Est-ce que je suis là ou pas? Est-ce que ce patient, il est avec quelqu'un ou avec une théorie? Est-ce que ce patient, il parle à quelqu'un qui sait ce qu'il a ou est-ce qu'il fait une rencontre? Est-ce qu'il y a une rencontre là? Et dans la rencontre, automatiquement, il y a perception, parce qu'en tant qu'être humain, nous ne sommes que perception. Vous pouvez pas ne pas sentir. Vous pouvez mal sentir. Vous pouvez avoir fait plein de choses. On fait tous plein de choses dans la vie pour ne plus sentir. On a peur. Mais on n'arrive pas à pas sentir. En psychologie, on met les gens dans des caissons d'isolation sensorielle. C'est vraiment très difficile à faire, un caisson d'isolation sensorielle. Comment faire pour que vous n'ayez plus aucune sensation? On n'arrive pas. C'est très difficile à faire. Et du coup, nous sommes formés pour être sensation. En fait, en tant que mammifères, puisque nous sommes des mammifères, nous, en tant qu'humains, nous sommes faits pour percevoir tout ce qui se passe, l'énergie, les auras. Votre chat, il voit les auras, votre chien voit les auras, il perçoit. Nous sommes des mammifères. Nous sommes faits pour ça. Après, percevoir les auras, ça dit absolument rien de mon cheminement spirituel. Je fais quelque chose de spirituel avec ça ou pas. Mais la capacité perceptive est là. Et en fait, c'est un effort constant qu'on fait pour ne pas percevoir, pour ne pas sentir, pour ne pas être dans ce moment où il y a juste la rencontre. Donc pour moi, percevoir les auras, c'est arrêter de faire quelque chose. C'est pas du tout faire quelque chose. En fait, c'est d'une facilité déconcertante et qui nous est pas toujours accessible. On a beaucoup moins de capacité pour la facilité que pour la complication. Et oui. Et donc, quelque part, percevoir, c'est s'asseoir, regarder le monde. Hein, ouvrez les yeux et vous verrez, ouvrez les oreilles, vous entendrez. Il y a un percevoir du monde qui fait que je peux tout d'un coup me mettre dans le flot et me rendre compte que le monde a une respiration, que le monde a un flot et que je peux entrer dans ce flot, entrer dans cette respiration et que je peux respirer avec le monde. Et quand je commence à respirer avec mon patient, on se rencontre. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et dans ce qui se passe, la personne, elle commence à se trouver elle-même, elle commence à se sentir elle-même, et parfois, elle commence à revenir à elle. Parce que dans cette pièce, il y a quelqu'un qui la voit dans son être, et elle se rappelle de qui elle est. Et pour moi, c'est ça, percevoir les auras, c'est percevoir l'être. C'est-à-dire que c'est rentrer en résonance avec ce que la personne, elle est, et pas avec ce qu'elle met en place. Et que je rencontrerai ce que moi j'ai mis en place. Donc la perception demande un dénuement. Elle demande de revenir à quelque chose de l'enfant dans le sens d'une non-complication et dans le sens d'une écoute. À travers les années, puisque maintenant ça fait depuis 1900, alors nous on dit 97 en Suisse, 97 pour vous, j'enseigne ça. De toutes ces années, j'ai jamais vu de gens qui percevaient pas, en tout cas l'éthérique, cette première couche, voire d'autres couches. Jamais. Après, c'est plus facile dans le stage. Est-ce qu'ils en ont une utilité en dehors? Est-ce qu'ils peuvent s'asseoir de temps en temps? C'est une autre question. Mais percevoir, on a la capacité émerge tout de suite, dès qu'il y a un espace. C'est en fait un état de conscience, la perception. C'est une façon d'être au monde. Voilà, donc ça dépasse largement le fait de voir de la lumière rouge ou verte au-dessus de la tête de quelqu'un. Ça n'empêche pas de le faire, mais ça dépasse ça. Ok. Je vais vous parler un petit peu de tous les corps, vous dire deux, trois mots sur chaque corps. Et puis, je vais après faire un schéma sur ce tableau. Je sais que les gens du fond ne le verront pas forcément. Ça me permet un peu de montrer avec mon doigt, mais ma main, et puis vous pourrez venir voir après, ou le photographier si vous voulez. Mais ça me permet aussi à moi une structure. Alors, on a le corps physique, éthérique, astral, mental, et nous on dira causal, mais vous avez compris que causal c'est jusqu'à l'infini, donc c'est tous les corps spirituels. Le corps physique a son importance. Si je m'intéresse à l'énergie, aux chakras, aux auras, parce que je ne m'intéresse pas au corps physique, il y a quelque chose qui n'est pas complet. Le corps physique, en fait, est la densité de tous mes corps énergétiques. C'est pour ça que j'ai des cartons, parce que c'est un peu la seule manière pour comprendre que le corps physique, il a toutes les couches dedans et le dernier pas, vous voyez comme ça. Hein, ici, c'est très subtil, là. Et là où il y a le corps physique, il est complètement fait de tous les autres corps. Il est fait de toutes les densités. Autour de chacune de mes cellules, il y a le corps éthérique, le corps astral, le corps mental. C'est pas possible de le montrer en image. Il faudrait une image en trois dimensions interpénétrée. Il faut imaginer. En fait, chacune de mes cellules, chacun de mes organes a un corps éthérique. L'éthérique est partout. Donc le corps physique est extrêmement important parce qu'il me montre, il est lié pour moi avec la réalité et c'est la réalité qui montre comment je vais. Quand un patient, vous lui faites des traitements, ce qu'il va nous dire s'il va mieux, c'est pas s'il a le plus bel astral que le monde a jamais vu. C'est si quand il se lève le matin, il est bien. Est-ce qu'il est mieux qu'avant ou pas? Et c'est ça, s'il n'y a que lui qui le sait. Et il est obligé pour ça de revenir à la réalité, à son corps physique, à revenir au corps physique dans une vision large, qui est aussi le quotidien. Moi, on m'a dit une fois que quand je dis corps physique, moi je dis souvent en fait vie quotidienne, quotidien, présent, réalité, que vous sachiez. Donc c'est tout ça, c'est comment je suis le matin, même mon humeur, quelqu'un qui est plutôt déprimé, vous lui faites un traitement et puis il est moins déprimé. Il faut que ce soit tangible, autrement on travaille dans des dimensions subtiles, hautes, et les gens sont mal le lendemain matin. Et ce qu'on a besoin, c'est que les gens puissent exprimer leur être aussi dans la quotidienneté et être simplement en équilibre en soi. C'est pas forcément de hauts objectifs. Donc le corps physique reste toujours la référence pour le diagnostic ou pour la preuve de l'effet du traitement. Et puis ça reste pour moi la porte pour l'être, parce que la présence que j'offre à l'autre doit passer par une présence au corps, puisque c'est la dimension que nous vivons ici sur Terre. Hein, autrement, c'est comme si vous allez en Angleterre apprendre l'anglais et puis vous parlez français tout le séjour. Vous êtes venu sur Terre expérimenter la dimension physique. Des êtres spirituels, vous l'êtes, mais on a besoin d'expérimenter cette dimension physique. On est là pour ça, tant qu'à faire, allons-y pleinement. C'est l'avantage des techniques corporelles, c'est l'avantage du yoga, du tai chi, et puis de la danse, comme on a fait hier soir, de vraiment revenir au corps, qui est vraiment une porte pour notre être. Donc c'est une dimension qui fait partie pour moi des... Enfin, je ne fais pas de distinction entre physique et énergétique. Pour moi, le corps physique est un corps énergétique, mais c'est le plus dense sur la Terre, et c'est celui avec lequel on fonctionne. Le corps éthérique, il est à une quinzaine de centimètres environ. Et c'est un corps qu'on a facilité à voir. Là, vous pouvez pas tellement, quoi qu'il y a du noir aussi derrière moi, mais ça peut être plus difficile à cause de ce spot aussi qui peut empêcher. Là, c'est, si vous n'avez pas une perception qui est déjà à l'aise, vous allez mieux voir si la lumière est un peu entre vers le soir quand le soleil descend. C'est là qu'on voit le mieux, c'est là où c'est le mieux de s'exercer. Vous prenez votre plante verte, votre chat, votre femme ou votre mari, vous mettez devant un mur blanc à cette heure-là, et hop, hein, vous fixez un point, que ce soit sur le front ou au-dessus de la tête, et vous ne faites rien. Non, vous faites plein de trucs, mais vous ne bougez pas les yeux. Envoyez-lui de l'amour, tout ça, ça gêne pas. Mais vous ne bougez pas les yeux et vous clignez pas. Les yeux pleurent, vous avez un air atroce, on est déterré, faites fermer les yeux si c'est le mari ou la femme, parce que la cornée n'est plus balayée par la paupière, alors voilà, après ça passe. Mais au début, les premières fois, voilà. Faites pas ça dans le bus. Hein, parce que... Puis pour peu que vous voyez quelque chose, oh dans le métro, ça ne le fait pas trop. Donc, faites fermer les yeux à tous ces gens-là et voilà. Voilà, ça c'est le corps éthérique, c'est une bande à peu près d'une quinzaine de centimètres à la vision. Enfin, en tout cas au toucher, une quinzaine de centimètres, qui à la vision est parfois de 5 centimètres. C'est pour ça que dans les livres des visuels, vous verrez le corps éthérique décrit comme petit. Et au toucher, on le touche plutôt à 15 centimètres. Ce qui nous intéresse dans ce corps, c'est qu'il est profondément incarné, comme le corps physique. D'ailleurs, il y a des écoles qui parlent de physico-éthérique. Et donc, ce corps éthérique, c'est le carburant. Mon corps physique, c'est le véhicule. Mon corps éthérique, c'est le carburant. Donc, c'est l'énergie vitale. C'est très important. Si je peux être malade en ayant une bonne énergie vitale, je peux ne jamais être malade et avoir une mauvaise énergie vitale. Mais si je suis malade et que j'ai pas une bonne énergie vitale, mon corps retrouve la santé moins facilement. Donc c'est un corps qui a son importance dans ma capacité à revenir, ma capacité à absorber ce qui se passe dans la vie et à faire face à la réalité. C'est comme un filtre entre moi et l'extérieur. Si des fois on développe des perceptions, on en a de naissance et puis on n'est pas assez dans le corps, on n'a pas eu d'exemple pour apprendre à être dans le corps, et du coup on reçoit tout très fort. Beaucoup de gens me disent « Oh là là, vous voyez tout ça, mais comment vous survivez ?» Moi, je survis parce que je crois même pas qu'on peut voir autrement. C'est comme si maintenant je vous dis, ah, vous voyez un nez sur les gens? Mais c'est incroyable comment vous survivez. Tous ces nez? Oui. Ben, ça va. Hein, c'est la même chose. Et du coup, d'une certaine manière, j'ai besoin d'un filtre pour que tout ce que je perçois puisse être métabolisé par mon corps, par mes corps. Donc c'est le corps éthérique qui fait cet office. Si je reçois tout sur moi, si je suis comme une éponge, c'est que mon corps éthérique n'est pas assez dense. Tout ce qui est travail physique, tout ce qui est danse, mouvement, la danse africaine à l'extrême, tout ce qui est marcher à la montagne, fréquenter le minéral, les pierres, la montagne, tout ça densifie le corps éthérique. Ce corps, il se forme de 0 à 7 ans environ. Ça change un petit peu maintenant à notre époque. Je ne sais pas ce qu'il faut en comprendre. Certains vous diront que c'est parce que les enfants sont indigos, que l'énergie accélère. Sans doute qu'il y a beaucoup de choses comme ça. C'est aussi le corps de l'individualité. Et je ne sais pas si on n'est pas individualisé plus vite aussi dans notre culture. Voilà, ça reste des questions en suspens et pour ne pas avoir un avis là-dessus parce que ça nous dépasse. Mais en tout cas, c'est vrai que les enfants finissent leur corps éthérique des fois plus tôt, mais le petit bébé n'a pas de corps éthérique. Hein, il est plus dans une énergie générale et puis ça se densifie comme ça après. Hein, c'est pas, le corps éthérique ne pousse pas comme une branche. Le corps éthérique se densifie et clouc, il est dense. C'est plus quelque chose qui vient, qui densifie de l'extérieur, que quelque chose qui pousse. Voilà. Donc, chez l'enfant, il se densifie, et puis vers 7 ans à peu près, il a un corps éthérique comme nous, comme un adulte. C'est d'ailleurs de 0 à 7 ans des années où il est très important pour l'enfant d'apprendre à être au monde physique. Des fois, on ne nous a pas appris ça de 0 à 7 ans et on a de la peine à apprendre après. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai chaud? Tout ça, c'est de 0 à 7 ans qu'on apprend à habiter la dimension physique. C'est des années très importantes. Et où si les enfants ont des perceptions, il faut pas trop les pousser, ni leur faire peur, ni les arrêter, mais pas trop les pousser non plus. Trouver un milieu, parce que c'est des années où ils doivent apprendre à rentrer dans le corps physique, vraiment, à habiter la dimension physique. Après le corps éthérique, on a un corps astral. Donc le corps éthérique, il est une quinzaine de centimètres. Le corps astral, il est à peu près là, sur moi, quarantaine de centimètres. Enfin là, il est peut-être plus grand parce qu'entre le spot et tout ce que vous êtes là et qu'en plus je parle, donc normalement, il devrait être là, je pense. Du coup, voilà. Ce qui m'amène à vous dire que je n'ai pas dit que les corps s'écartent, s'amplifient selon ce qu'on fait ou se recontractent. Quand on danse, les corps s'amplifient. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de métabolisation et de choses qui se transforment à travers la danse. Parce que dans cette expansion, l'énergie recircule et on a vu que quand ça circule, c'est en équilibre. Quand ça circule pas, c'est en déséquilibre. Donc, c'est comme si on rebrasse le tout et que ça se repositionne et que là, il y a la possibilité que ça se positionne autrement. Donc, cette expansion, elle peut permettre un plus grand équilibre. Donc le corps astral, c'est le corps émotionnel. C'est en fait souvent le corps dont les gens parlent quand ils parlent d'aura. C'est vraiment ce qu'on appelle l'aura dans le grand public. C'est un corps qui est un peu par là, il y a des couleurs, c'est le corps le plus coloré. L'éthérique est plutôt dans les pastels, là c'est très coloré. Et c'est un corps qui bouge beaucoup, qui a beaucoup de réactions. C'est ce corps qui est en lien avec donc tout ce qui est émotionnel et aussi tout ce qui est fantastique, c'est pas le bon mot, mais c'est l'imaginaire, c'est la pensée, c'est là qu'il y a aussi les esprits de la nature, les elfes, tous ces vécus qui sont aussi beaucoup dans le chamanisme. Le chamanisme est une voix qui utilise beaucoup l'astral comme porte d'entrée. C'est les rêves aussi. Alors, c'est un peu comme la télévision américaine actuellement. 850 canaux, nuit et jour. L'astral, il y en a toujours à voir. On va rester comme ça des siècles. Des perceptions, des messages, des intuitions, des esprits, des anges. Ça y va, hein. Alors, le désavantage de ça, c'est qu'il y a dedans des messages et puis il peut y avoir trop. Si j'ai un corps éthérique qui n'est pas assez dense et que j'ai un astral très grand, je vais être bombardée d'informations et je n'arrive pas à faire le tri. Ça ne va pas m'apporter. Ça va être aussi des patients qui ont des douleurs qui se déplacent tout le temps. Vous faites un traitement, ils vont beaucoup mieux, mais ils ont mal ailleurs. Puis ailleurs, puis ailleurs, puis ailleurs. Ça, c'est signe d'un manque d'éthérique, vraiment. Et d'un astral trop grand. Il y a besoin d'avoir un équilibre entre l'astral et l'éthérique. Si vous avez un éthérique énorme et un astral tout petit, vous finissez comme le croque-mort dans Lucky Luke. Tout complètement incapable d'imaginaire, complètement crispé, complètement rigide. Mais si vous avez un immense astral et pas d'éthérique, il y a une incapacité à mettre les choses en réalisation. J'arrive à penser, à imaginer, à avoir des idées, mais quand il faut matérialiser, physico-éthérique, j'arrive pas à passer à l'acte. Ça peut être les artistes qui ont énormément d'inspiration, mais ils peuvent pas faire le tableau. Et encore moins aller le vendre ou en faire quelque chose. Donc on cherche l'équilibre entre ces plans-là. Parce que ça sert à rien d'avoir énormément de perceptions, par exemple, et de pas pouvoir en faire quelque chose au monde. Ça va me remplir et puis je peux pas faire... flotter, c'est pas ça, circuler, merci, le flot. Donc j'ai besoin d'avoir autant d'intention pour tous les plans. Le corps astral, il se termine vers 14 ans, c'est un moment important pour les adolescents, ce 7-14 ans, pour apprendre la relation aux autres, le lien entre les autres. Qu'ils apprennent à travers la relation de leurs parents, ma foi, et en même temps, à travers leur propre vécu, de leurs amis. C'est un moment où ils ont besoin de ces interactions parce qu'ils construisent cette capacité de lien, cette capacité sociale. C'est un plan, le corps astral, en lequel on est en lien avec les autres. Vous êtes forcément né de quelqu'un et éventuellement quelqu'un va naître de vous. Nous ne sommes qu'une chaîne. Dans le corps astral, on est en lien avec toute notre psychogénéalogie et on peut avoir des influences de toutes nos psychogénéalogies. On ne peut pas être quelqu'un d'isolé, alors que physique éthérique, je suis isolée. Physique éthérique, c'est que moi. De même que physique éthérique, si vous croyez aux vies passées, c'est que pour cette vie. Quand je nais, enfin avant, quand il y a la fécondation, il va y avoir une étincelle de fécondation. Cette étincelle de fécondation, elle va créer un mouvement qui va mettre de l'eau en mouvement. Au début, l'embryon, c'est comme de l'eau. Et puis cette eau va se densifier, devenir terrestre, et quand l'enfant va sortir, il va respirer. On a les quatre éléments. Et là, le physique éthérique se construise. Mais mon corps astral, si on croit aux vies passées, il a aussi toutes les mémoires karmiques. Si on n'y croit pas, c'est pas grave, parce qu'on a assez d'ancêtres pour porter pas mal de problèmes. C'est une question de point de vue. Donc on peut travailler le karmique ou le psychogénéalogique, on arrive au même trouble, et tout va bien. Et c'est là qu'on porte toutes ces mémoires. C'est vraiment l'endroit où il y a les mémoires. Voilà. Pour le corps astral, il ne me vient rien là. Donc c'est un corps qui est plus facile à bouger que l'éthérique. Hein, si maintenant je fais un traitement à quelqu'un sur l'astral, c'est un peu comme une bulle de savon. Je peux amener un mouvement, ça va bouger tout de suite. Mais comment je fais pour que le mouvement que j'ai amené dans l'astral descende dans la matière ? Et c'est difficile de faire maigrir votre cuisse en appuyant dessus. Vous pourriez faire un peu maigrir l'astral en appuyant dessus, mais comment ça va descendre dans la matière? Bon, celui qui va trouver ça, il va faire fortune. Mais c'est ça, c'est plus je vais dans le subtil, plus j'ai des mouvements grands, facilement, mais comment je les densifie pour que ce soit des réalités demain matin? C'est super que j'ai un astral magnifique, mais si je suis malheureux tous les matins, ça me fait une belle jambe. Hein? C'est comme c'est super que je pense dans mon cœur aux gens, mais si je leur dis pas, on est sur terre. Les gens ont besoin de manifestations physiques. On est dans un corps physique, on peut se toucher, on peut s'embrasser. C'est une chance incroyable. Les êtres qui n'ont pas de corps physique, les esprits, ils peuvent justement pas arriver à cette subtilité physique de se toucher. C'est très dense et très beau. Donc, d'une certaine manière, c'est tout le challenge d'arriver à me transformer émotionnellement, mais est-ce que ça y a un effet dans mon quotidien, dans ma nature, dans mon corps, dans ma structure? Je vais faire une petite pause sur ça, je vais faire ce tableau que je sais, vous ne verrez pas tous, je vais vous expliquer ce que j'écris, ça va m'aider à parler des deux corps suivants qui sont assez subtils. Beaucoup de traditions disent qu'au début, on était un. Je représente ça par un grand cercle. On était tous un. Que ce soit la tradition scientifique actuelle, bien qu'elle commence à être discutée du Big Bang, ou que ce soit des traditions hindoues, enfin, dans plusieurs cultures, on retrouve cette idée qu'on était tous un et que ce un s'est expansé. Comme dans le Big Bang, le un s'est expansé en faisant des points séparés, un peu de même nature, donc tous des points. Je fais simplement des points. Imaginez le Big Bang, on était tous un et les consciences se sont séparées en consciences individualisées. Je vais mettre les mêmes points, mais je vais les organiser selon des structures géométriques. Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est symbolique. Je vais mettre ces points en forme de triangle, en forme de cercle et en forme de carré. En dessous, je vais faire une espèce de bulle qui représente le corps éthérique. Et en dessous, je vais faire un corps physique schématisé. Je sais que vous ne voyez pas, c'est pour que moi j'aie aussi je vois bien que c'est trop loin, mais vous pourrez venir le voir et puis moi comme ça j'ai le tableau aussi pour me structurer. Le corps physique que j'ai fait en bas, c'est le plan physique. La bulle, c'est l'éthérique. Les points qui sont structurés en forme géométrique, c'est l'astral. Les points qui sont dispersés, comme dans l'univers, c'est le corps mental. Et là-haut, là où on est tous un, c'est le corps causal. Donc nous, on a tous ces plans à l'intérieur de nous et on vit à travers tous ces plans. Et donc, je vous ai dit, on a le corps physique. Ensuite, on a le corps éthérique qui est le carburant. On a le corps astral auquel on est lié aux autres. C'est pour ça que j'ai fait des formes géométriques avec ces points, pour que vous compreniez bien à quel point on est en interaction sur ce plan-là. Il y a une interaction entre les différentes personnes. Je ne peux pas être moi sortie de mon milieu. Je peux ne plus voir ma famille, ça reste que j'ai des parents. Et que ne pas les voir influence mes parents et donc mes frères et sœurs et donc les petits-enfants des autres et donc mes voisins. Et donc tout ce que je fais, comme dans cette idée de l'effet papillon que vous connaissez sans doute, a un effet sur l'environnement. On est interdépendant, interrelationné. Ça, c'est dans l'astral que c'est le plus évident. On est tous en lien. Mais dans le sens émotionnel et dans le sens de l'effet de nos actes. C'est pas le même lien qu'on verra après où on est tous un. Là, c'est dans les effets émotionnels. Ça se voit surtout à Noël, n'est-ce pas? À quel point nous sommes venus sur Terre, surtout pour explorer les trois derniers niveaux. La façon dont les autres m'arrivent dessus et l'émotionnel que j'échange avec eux. 80% des patients qui viennent chez nous ont des problèmes émotionnels, relationnels ou physiques. C'est vraiment ce qu'on travaille le plus, c'est ces dimensions-là. Là, on est dans un monde de la dualité. On est dans un monde noir-blanc. L'astral, c'est Walt Disney. Dans l'astral, il y a les méchants et il y a les gentils. Les gentils, c'est moi, les méchants, c'est les autres. Il y a une variante. Les méchants, c'est moi, les gentils, c'est les autres. Même problème, même symptôme, même maladie. Hein? Donc le problème, c'est quand il y a des gentils et des méchants, à part pour les Walt Disney, ça marche pas. Personne n'est entièrement gentil, personne n'est entièrement méchant. Et nous, on vit d'une manière très duelle dans notre tête et on aborde le monde à travers cette dualité-là. Et ça amène beaucoup de déséquilibre. Donc en dessous de cette ligne ici, cette ligne, c'est celle qui est entre le corps mental et le corps astral, pour ceux qui ne voient pas, en dessous de cette ligne, on est dans la dualité. On voit le monde à travers des lunettes duelles. Si je vois le monde à travers le corps physique, je me fais toujours du souci pour mon corps, j'ai toujours besoin de choses matérielles. Si je vois le monde à travers le corps éthérique, je vais toujours vouloir faire du sport, avoir un maximum d'énergie, être toujours énergétique, toujours dynamique. Et si je vois le monde à travers l'astral, je vais être en relation, je veux vivre les émotions. Voilà, c'est les lunettes que je mets pour vivre le monde. C'est là où je regarde le monde. Et notre problème, c'est que par moment, on ne vit le monde qu'à travers une couche. On vit tout depuis l'astral, ou on vit tout depuis l'éthérique, ou on vit tout. Et nous, on a besoin de rester mobile. On a besoin de vivre toutes nos dimensions tout le temps. Ça va? Vous n'avez pas plein la tête? Ça va? À force de pas vous, il n'y a pas d'interaction, n'est-ce pas, hein? Moi, je suis seule face à vous. Du coup, je me dis, mais ils sont peut-être pleins jusque-là et moi, je continue. Ça va. Dites-moi que ça va. Ah. Merci. Okay. Ça va. Alors, on sort de la dualité. C'est dans l'astral qu'on a besoin comme ça d'être soutenu par le groupe et tout. Ah. Alors, on a une ligne ici qui nous fait partir de l'autre côté de la dualité. Donc on rentre dans quelque chose de non-duel, une vision du monde où on se rend compte, comme est enseigné dans le Tao, que la nuit, c'est le contraire du jour, c'est l'autre côté de la même pièce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas noir et blanc, mais il y a tout un ensemble de choses. Les gens ne sont pas méchants ou gentils, mais ils sont pris par moments dans des schémas ou des choses qui leur font faire certaines actions, qui donnent certains effets. Quand on passe à notre plan mental, on a un recul émotionnel. Et depuis ce plan-là, on est plus en lien avec quelque chose de profondément existentiel. On est moins emmêlé dans l'émotionnel. Là, c'est vraiment l'astral, le corps émotionnel. Le corps mental, c'est vraiment un corps qui me ramène au sens de la vie. Alors, en tout cas pour moi, pour les théosophes, c'est pas du tout ça. Vous retrouverez pas ça dans les textes. J'aurais dû sans doute changer le nom de ce corps-là. Mais voilà, pour moi, ce corps mental, il a à voir avec ça. Il a à voir profondément avec le fait qu'on ait plusieurs consciences, mais là, on n'est pas encore en lien. On n'est pas encore papa, maman, gentil, méchant. On coexiste. Et il y a quelque chose qui se met en place qu'on pourrait appeler au sens mathématique un vecteur qui va donner des lignes de force. Si j'essaie d'expliquer ça stupidement, c'est comme si je voulais venir sur Terre pour apporter la conscience qu'il y a autre chose que la matière, mais quand je vais descendre m'incarner, quand je passe dans l'astral, je peux soit couper la tête à tout le monde qui n'est pas d'accord, soit expliquer gentiment. Mais derrière ça, le vecteur, il est neutre. Vous comprenez ? Il y a quelque chose de neutre. Je vais aller amener quelque chose sur Terre, mais quand je passe dans cette dimension, je vais pouvoir le vivre d'une certaine manière ou d'une autre. Je vais le polariser avec du positif négatif. Je vais lui donner des polarités. En dessus de ça, j'ai, comme dirait Paolo Coelho, la légende personnelle, où il y a plein de mots dans différentes traditions, j'ai une espèce de vecteur qui me pousse en avant. En yoga, en kriya yoga, on dirait que c'est le karma, mais qui pour eux est la gravité terrestre. Ça pourrait être que ça, cette attirance à s'incarner. C'est des vecteurs qui me poussent et qui ne sont pas encore polarisés. Donc ici, il y a déjà je suis profondément en lien avec mon essence, mais ce n'est pas l'essence commune où on est tous un, c'est une essence déjà différenciée, mais pas encore prise dans des jeux émotionnels. C'est assez abstrait de ces plans-là. Et donc là, si je veux travailler ce plan, je suis obligée de lire ou d'aller dans un courant qui est non-dualiste, comme le Tao, comme le non-dualisme cachemirien. Je vais arriver à des méthodes aussi, si on prend l'aspect thérapeutique, qui sont plutôt biodynamiques. La biodynamie en thérapie, c'est le fait de s'asseoir, donner un espace au corps et le corps se rééquilibre. Il y a un aspect dans le Reiki où vous faites ça, c'est-à-dire que j'offre un espace et ça se rééquilibre tout seul. C'est pas moi qui dis, là, ce problème, je vais le réparer comme une voiture. Là, on est dans le mécanique. Si on prend l'ostéopathie mécanique, il y a mal à la jambe, je répare. Même si j'ai une vision ostéopathique globale et que je travaille depuis le crâne, je répare la jambe. Dans une ostéopathie biodynamique, j'offre un espace au corps. Et dans cet espace de présence que j'offre, le corps trouve une voie pour se rééquilibrer lui-même. Là, on n'est pas dans une dualité. Parce qu'on ne pense pas le patient malade ou en bonne santé. On pense le patient simplement coupé de la capacité de savoir qu'il est en santé. Et on lui offre un espace où il peut prendre le temps de sentir sa santé et que son corps se relie à ça. Comme si pris dans le quotidien, dans les schémas, dans les karmas, dans la psychogénéalogie, on n'a plus la capacité de se rappeler de notre être. Et dans le biodynamique, je vais créer un espace où l'autre peut se souvenir de qui il est parce que je le vois. Ou que j'offre un espace où il peut se voir et il se rééquilibre. Donc c'est toujours des techniques où je m'offre, mais je ne fais pas en action. Quelles qu'elles soient, hein, il y en a plein qui existent. Dans l'astral, je vais plutôt être dans des techniques émotionnelles ou analytiques, ou psychanalytiques. C'est-à-dire qu'on va analyser l'enfance, on va analyser la psychogénéalogie, on va analyser l'histoire, on va faire de l'emotional release, ressortir les émotions. Dans l'éthérique, je suis plutôt dans des techniques corporelles, mais qui ont un aspect un peu énergétique ou doux, mécanique mais douce. Et dans le physique, je suis plutôt dans des choses très mécaniques ou des opérations, des choses plus allopathiques. Donc, dans chaque niveau, je peux aborder une vision de la thérapie différente, avec le même patient. Simplement, il y a des patients, à un moment dans leur vie, ils ont vraiment besoin d'une opération. Il y a des patients, à un moment dans leur vie, ils ont vraiment besoin de s'asseoir pour méditer. C'est aussi marqué par mes capacités en tant que thérapeute, ce que je sais faire, mais aussi par le besoin du patient à ce moment-là, qui peut changer à un autre moment. Donc le corps mental, il a à voir avec ça. Il se termine, lui, à 21 ans, ce qui fait que 21 ans est un âge très important pour identifier les valeurs dans ma vie. C'est l'âge où les jeunes gens qui ont 21 ans vont choisir ce qu'ils laissent de leurs parents et ce qu'ils prennent. Ce qu'ils laissent de ce qu'ils ont appris, de ce qu'on leur a appris et ce qu'ils prennent. C'est vraiment un moment de changement de valeur, enfin d'adaptation ou de choix de valeur. Et parfois, je n'ai pas la possibilité d'avoir mes propres valeurs. Je crois avoir mes valeurs, mais si on creuse, on va se rendre compte que c'est des valeurs que j'ai acquises en fait et que je ne me suis pas rendu compte. Ensuite, on a le plan causal, c'est le corps spirituel. Je ne sais pas, je me pose tout d'un coup la question si on pourrait dire que ce corps mental est le corps existentiel. Donc, mais c'est quelque chose d'existentiel. Là, c'est vraiment le corps spirituel, le causal. Et dans ce causal, par rapport à l'exemple que je vous ai donné au tout début de la conférence, c'est l'océan. L'océan, c'est le causal. Et puis, il y a des tourbillons dans l'océan. Et c'est de plus en plus dense jusqu'au physique. Et l'océan, c'est le causal. Donc, on est tous de même nature et tous nos plans sont faits de ce causal-là. Donc, ce corps causal, c'est vraiment le lien avec mon être. Mais quelque part, de nouveau, je suis en interrelation parce que mon être, l'océan, on a le même. On a le même causal, d'une certaine manière. On est tous des tourbillons qui ont émergé du même océan. Donc on pourrait appeler ça l'univers ou Dieu, qui bien sûr n'est pas un vieillard sur un nuage dans ce cas-là, mais quelque chose de global. C'est pour ça que le mot univers est pas mal. Quelque chose, une force de vie, ou quelles que soient nos croyances ou notre cheminement. Et là, on est vraiment dans une dimension spirituelle. Si on traite les gens à ce niveau-là, on va faire de la méditation. Là, on va faire de la méditation dans le causal. Dans le corps mental, on va faire des techniques biodynamiques. Dans l'astral, on va faire plutôt des techniques d'analyse, d'exploration ou émotionnelles. Et ensuite, des techniques plus fluidiques, comme disent les ostéopathes, plus énergétiques. Et ensuite, des techniques plus mécaniques ou allopathiques. Donc percevoir les auras, c'est percevoir tout ça. C'est se rendre compte que je suis toutes ces dimensions à chaque moment. Je fais la vaisselle, j'ai toujours un causal. Parce que tout d'un coup, ça devient sérieux que j'ai plus de causal. Je médite, j'ai toujours un corps physique. C'est parce que tout d'un coup, ça devient spirituel que j'ai plus de corps physique. Donc je suis toujours en lien avec toutes ces dimensions. Et l'idée, c'est qu'au lieu de me ratatiner dans une, moi j'appelle ça se raisin séquiser, parce que je pense qu'il n'y a pas plus visible qu'un gros raisin et un raisin sec. Ça fait hein. Et donc de se raisin séquiser comme ça, d'une certaine manière, parce que je vis plus qu'une dimension. J'ai vraiment besoin de vivre la totalité de mes dimensions à chaque moment. Après, bien sûr que s'il faut faire un examen, je ne vais pas commencer à méditer. Si je médite, je ne vais pas commencer à me secouer les doigts de pied. Mais j'ai, enfin, c'est pas une conscience que je ressens, mais je reste global, je reste vaste. Voilà, l'idée, c'est d'avoir la capacité de rester en vastitude, de garder ma grandeur. Dans le ratatinement, dans la résensequisation, il y a la maladie. Quand c'est contracté, c'est bloqué. C'est toujours dans l'expansion que l'énergie circule. Donc vraiment, pour moi, percevoir les auras, c'est vivre en intelligence avec ces mondes. Avoir conscience que je vis sur plusieurs plans et vivre en intelligence mes différents plans. Et du coup, recevoir cette intelligence avec l'autre, en fait. Que dans la rencontre, ces plans se vivent aussi. Et de me rendre compte que je mets un focus, je mets un curseur à un endroit ou à un autre. Et en fait, je vis des situations que depuis un endroit. Après, c'est sûr que si vous avez un patient qui vient... Et que ce patient, il est que dans ma collègue de bureau, elle est méchante, parce que si vous saviez ce qu'elle m'a dit, vous n'avez pas à lui dire, très cher, vous êtes la santé, mais dit-on ensemble. Il y a un moment, je dois forcément, par respect, recevoir le patient là où il est. Donc, à un moment, je dois l'entendre, je dois l'écouter dire comme si elle est méchante, je dois explorer ça avec lui, puis après, peut-être, je peux faire un lien, moi, je suis psychologue, évidemment, avec sa mère ou avec du psychogénéalogique. Et puis, après un jour, je peux peut-être, dans un moment où il dit, mais peut-être, c'est pas ma mère, ou peut-être, elle a reçu ce qu'elle m'a donné, ou on a des ouvertures, alors on va rentrer dans quelque chose où on se rend compte que celui qui est méchant, il fait que ce qu'il a reçu, il peut donner que ce qu'il a reçu. On passe dans un plan plus mental, du corps mental, hein. Et puis après, peut-être à un moment, il peut dire, mais on est tous en fait pareil et on est dans un plan causal. Et dans la thérapie, on peut toucher tous ces plans, mais c'est nécessaire de recevoir la personne où elle est et de lui apporter ce qu'elle a besoin, au moment où elle en a besoin. Qu'elle puisse être écoutée où qu'elle soit. Autrement, on rentre dans quelque chose qu'on avait déjà quand on était petit, quand on allait à l'école. Il faut être bien, il faut être gentil, il faut bien suivre, il faut être spirituel, il faut ouvrir son cœur, il faut être dans le détachement, ça ne devrait pas vous toucher, vous ne devrez pas être dans la supposition, et bla, et bla, et bla, et on s'éloigne de soi. L'excuse spirituelle pour s'éloigner de soi n'est pas meilleure qu'une excuse moins spirituelle. Voilà pour ça. Alors, les chakras, parce qu'on a mis les chakras sur le papier. Les chakras, je vous ai dit, donc c'est des relais un peu entre l'énergie des auras et le fait que... Ok, merci Nita. C'est des relais entre les énergies et le corps physique. Donc, la capacité, en fait, du chakra, quand il marche bien, on va dire comme ça, c'est qu'il puisse bien filtrer l'énergie pour que j'aie pas trop. Si on prend une image de science-fiction, s'il ne filtre pas assez, je pourrais brûler comme ça. Et puis s'il filtre trop, je ne suis pas assez nourrie d'énergie vitale. Donc le chakra, il faut ni qu'il laisse passer trop, ni qu'il laisse passer pas assez. Il faut qu'il se soit de bons filtres. Ce n'est pas des protections, ce n'est pas des armures, c'est des filtres. Ce sont des filtres qui laissent passer ce qui est bon pour moi, qui laissent dehors ce qui n'est pas bon. Ce qui est le cas aussi du corps éthérique. Voilà, il reste 15 minutes, je vous propose de poser des questions. Voilà, et puis je ne sais pas si on a un micro à vous passer ou comment ça se passe. Et puis après, je vous dirai deux mots sur les deux papiers qu'on a mis dans les sacs que vous avez reçus. Voilà.
Oui, je voulais te demander par rapport... Bon, tu as détecté ou annoncé plusieurs corps différents, dont le corps astral qui serait pour toi le corps émotionnel.
Oui.
D'accord ? Qui touche à tout ce qui est relationnel, en gros. Et pour
en
faire
gros,
court,
oui.
D'accord ? Alors, je voudrais savoir si, en travaillant sur l'aura de la personne, à savoir sur le corps émotionnel, ça va induire automatiquement quelque chose dans ses relations, dans son milieu relationnel, d'une part. Et quand tu as dit tout à l'heure que, ok, on peut travailler dans les corps extérieurs, pour autant, ce qui est intéressant évidemment, c'est que ça s'intègre dans le corps physique et éthérique. Et ou bien je n'ai pas entendu, ou bien tu n'as pas donné la réponse par rapport à cela. Comment faire pour que l'information soit intégrée au niveau physique? Voilà. Et donc, mais ma question, pour moi, la plus importante, est de savoir si, en travaillant sur le corps
astral
de la personne, tu peux constater directement un impact au niveau relationnel et émotionnel dans sa vie de tous les jours.
Oui. Moi, Bon, par ma formation, parce que après la psychologie, j'ai fait cette thérapie crânio-sacrale et puis l'homéopathie. Donc, je suis homéopathe, psychothérapeute, thérapeute crânio-sacrale et je travaille sur les auras. Je peux pas tellement avoir d'expérience d'un travail qui serait, et c'est peut-être pas la question, uniquement énergétique. Mais j'ai quand même la croyance théorique, et puis on le voit dans les stages, par exemple, mais c'est déjà faux, parce que dans les stages, on parle de relationnel, où il va y avoir un effet automatique quand les gens, par exemple, quand on fait un week-end entier sur l'astral, les gens ont plus de rêves la nuit, ont beaucoup plus de mémoire d'enfant qui descend, et il se passe des choses autour d'eux. Parfois, on travaille avec quelqu'un qui a plus de contact avec ses parents depuis 15 ans, et il y a une lettre des parents qui arrive le lendemain par synchronicité. Donc oui, on voit toujours des effets. On pourrait voir toujours des effets. Les fois où on verra pas des effets, c'est quand on va pousser dans l'astral de quelqu'un parce qu'on trouve qu'il doit avoir une guérison relationnelle et qu'en fait, en tant que thérapeute, on est dans le vouloir et que c'est pas prêt ou c'est pas mûr, on va dire. Mais comme on l'a dit au début avec le cercle, où que soit ma porte d'entrée, j'ai un effet. Ne serait-ce que d'être avec un thérapeute dans la même pièce et d'être une fois vraiment entendu, une fois vraiment vu, et une fois vraiment respecté dans tes limites, profondément respecté dans tes limites, si jamais de ta vie quelqu'un t'a respecté dans tes limites, dans ta famille, tu ne ressors pas la même personne relationnellement. Automatiquement. Parce que quand quelqu'un te voit dans ton être, il y a quelque chose qui change pour ta vie entière. Donc oui, il y a un effet. Après, j'ai pas vraiment répondu à la question de comment descendre, parce que c'est plutôt une question de vie entière. Est-ce que je travaille que énergétiquement en fuyant mon corps physique ou pas? Ou est-ce que je travaille le physique et les dimensions énergétiques? Donc je dirais que la solution, elle est de rester justement présent sur tous les plans et de pas vivre dans une spiritualité qui est pas incarnée dans le corps ou qui est pas incarnée dans la vie quotidienne, je dirais. Ça, ce serait la solution pour que ça descende, ou voire pour que ça ait même pas besoin de descendre parce qu'on est partout. Et qu'il n'y ait pas que des changements et j'ai un corps mental fabuleux. Moi, j'avais une fois une patiente qui était venue parce qu'elle avait vraiment pas d'argent, des difficultés tous les jours, enfin, des choses qu'on associe vraiment à l'éthérique ou au premier chakra. Et puis elle m'a dit, moi, je travaille beaucoup le corps mental. Elle avait en effet un corps mental, on aurait dit qu'elle l'avait acheté, tellement il était magnifique et en plastique comme ça. C'était incroyable, hein. Et je suis d'accord, mais ça lui faisait une belle jambe. Elle avait toujours pas d'argent, toujours des problèmes de famille, toujours. Et quand j'ai dit, mais moi, je pense que tu dois travailler l'ancrage, et je la comprends, hein, j'ai été trop vite, mais elle m'a dit, je suis pas venue pour ça, je croyais que tu étais spirituelle. Et elle est jamais revenue. C'est pas ça qu'elle voulait entendre. Et à un moment, c'est ça qu'elle avait besoin d'entendre pour que ça descende, on va dire. En tout cas, dans ma croyance. Ça te répond comme ça?
Merci.
Ok. Quelqu'un d'autre?
Oui, allez-y, je redis. D'abord, si on est en équilibre.
Attends.
J'aurais répété autrement.
Dans notre corps physique, si on est en équilibre, le yin et le yang est toujours en mouvement. Et d'après ce que vous venez de nous raconter, et c'est seulement. Quand on est en équilibre dans notre corps physique, c'est au fur et à mesure, avec l'entraînement de Reiki ou dans la religion, quelle que soit qu'on a sa religion, on monte petit à petit vers le corps causal, d'après
oui.
Mon entraînement.
Oui.
Mais c'est un entraînement de soi-même qu'on monte oui. au fur et à mesure vers le haut. Est-ce que je me suis trompée ou pas? Je voudrais vous poser cette question.
Je suis sûre que vous ne vous trompez pas, en tout cas.
Merci.
J'en suis persuadée. Et je suis sûre que je n'ai pas connaissance de la réalité, en tout cas. Mon vécu, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et ça ne s'appuie pas sur des traditions. Moi, on ne m'a jamais rien appris. Donc, j'ai fait comme la vie a fait que je fasse, toute seule. Mais mon vécu, c'est que certaines personnes, et ce n'est peut-être pas la même chose que vous entendez par là, quand elles montent, elles oublient les racines. Et que plus un arbre a des racines profondes, plus il peut avoir des branches larges. Un arbre qui n'a pas de racines et des branches larges, il tombe. Et je pense que ça, c'est tout à fait dans votre pratique aussi. Donc, on monte, mais on s'enracine. Et c'est un double mouvement.
Parce qu'en principe, quand on est né, un enfant, on n'est pas malade. Notre corps est en équilibre. Mais si on a une maladie, s'il y a un déséquilibre dans notre corps, il faut se réorienter pour avoir l'équilibre, le yin et le yang dans notre corps.
Je pense que c'est la même chose.
On se guérit tout seul.
Je pense que c'est la même chose et que c'est des questions de mots. Mais que le fond, on dit la même chose.
D'accord.
Merci beaucoup. Très
bien. Merci.
Je voudrais vous demander si vous pensez que l'autisme pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait qu'un enfant n'arrive pas à former son corps utérique.
Alors, c'est beaucoup plus vaste que ça. Est-ce que vous seriez d'accord de ne pas parler parce que ça me fait tellement d'informations parce que j'entends ce que vous dites. Moi, ça me fait trop. Je pense que c'est l'autisme est beaucoup plus vaste que ça. On est obligé de voir plusieurs facteurs de toute façon, comme toujours. Et déjà, il y a des facteurs transgénérationnels qu'on a besoin d'envisager sans bien sûr culpabiliser les parents. C'est pas leur faute, mais il y a un ensemble de choses. On est obligé d'aborder la question de l'homme dans la famille et du père, parce que dans l'autisme, il y a une dimension sans parole, parfois, qui nous appelle à la parole, et la parole est liée au père. Ça, c'est plutôt l'aspect psychologique. Donc, ça touche à ce chakra-là. Parce que ce chakra, couronne, il est à voir avec le père. Et donc, dans ce chakra-là, qui est lié au système nerveux, on retrouve... Alors évidemment, c'est totalement artificiel ce que je vous dis, hein, vous êtes d'accord, on n'est pas autiste de ce chakra-là, mais ce chakra-là est important dans la sclérose en plaques, l'autisme, toutes les psychoses, parce qu'il a à voir avec le système nerveux qui est vital dans notre système. Donc on doit questionner ce chakra-là chez un enfant comme ça, presque plus que son éthérique. Mais peut-être qu'à travers le vécu de l'autisme, il y a des spectres très larges et c'est très personnel pour chacun. Il peut y avoir une problématique à être au monde et peut-être aussi une problématique du regard des autres qui a créé difficile le quotidien et qui va forcément toucher l'éthérique et le physique. Mais dans l'autisme, on a plutôt une bulle. C'est-à-dire que c'est plutôt un éthérique qui est trop fermé et qui fait tong. Quand on le touche, ça tong. Alors que dans la psychose, on va avoir du trop ouvert. Le psychotique, il va sentir ce que chacun ressent et il est tellement d'informations qu'il va déconnecter parce que la réalité est trop vaste. C'est comme quand je vous dis, je vous entends parler, ça me fait trop d'informations et comme je suis ouverte vers vous, ça me fait trop. Et c'est un peu pareil. Donc dans la psychose, il y a l'incapacité de gérer ça et du coup, la réalité me percute et je déconnecte. Je vois pas le chiffre, Nita. 5, ok, 5 minutes il reste. Ça vous répond ?
Merci.
Oui. Oui. Allez-y, criez. Ouais, vous avez 2 questions.
Et de nombreuses études américaines et autres nous montre que l'une des grandes causes de l'autisme actuellement, ce sont les vaccinations et notamment l'aluminium
Monsieur,
des vaccins.
Est-ce que vous m'autoriseriez à vous arrêter ? Comment ? Parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, moi je trouve très très intéressant, il y a l'alimentation, mais peut-être comme la conférence est sur les auras, qui reste 5 minutes, et qu'il y a des gens qui ont des questions peut-être sur les auras, si ça ne vous gêne pas, je propose...
Non, c'était simplement 2 infos.
Oui, oui, mais c'est super.
La première. Et la deuxième, c'est qu'on a, on a beaucoup constaté d'améliorations dans des pratiques telles que arts martiaux, tai chi et autres, dans l'autisme. Voilà, c'est
super.
Sont 2 infos.
Merci beaucoup. On travaille beaucoup avec les animaux aussi, avec l'alimentation. On a énormément de résultats. Si vous avez une question un peu sur les auras, parce que moi, je veux vous parler de tout le temps. Je suis super bavarde. Mais juste comme Nita m'a dit, à 5 minutes, je...
Oui, donc en ce moment, dans nos vies, il y a beaucoup de... Il faut aller très vite, vous savez. Oui. Et donc, on nous demande beaucoup d'aller vite, d'avoir des résultats, du rendement, d'un côté. Et de l'autre côté, on devient beaucoup plus impatient. Ce qui signifie qu'on manque inconsciemment ou consciemment de confiance en nous. à cause de peut-être de qu'on va pas assez vite ou qu'on nous demande beaucoup d'aller très vite et on veut également avoir les résultats mais on n'est pas patient. Donc par rapport au corps, donc j'imagine que ça doit être de l'ancrage, mais pouvez-vous nous donner une solution?
Mais bien sûr. Bon. Une des solutions en général, c'est de pas se mettre en déséquilibre avec soi-même par rapport à ce que vit le monde. Parce que quand je suis dans un mécanisme qui est tout à fait naturel de dire le monde va trop vite, les gens sont pas spirituels, les gens comprennent pas ce qu'on fait, les gens sont pas ouverts, les gens, quelque part, moi-même, je me mets en retrait. Et ce que je donne, je le reçois, et quand je me mets en retrait, je suis rejetée. On le voit avec les guérisseurs. Moi, par exemple, je travaille souvent avec des médecins. Et quand on voit les gens qui rejettent, par exemple, l'allopathie, ils se mettent en porte-à-faux, ils sont rejetés par l'allopathie. On peut très bien être compris si on prend le temps, mais je reviens à votre question, si on prend le temps de se mettre dans le langage de l'autre et de lui dire des choses qu'il peut entendre et comprendre avec son langage. Donc, je crois qu'une des failles ou des glissements qu'on a tous, c'est de dire que le monde ne va pas pour qu'on puisse être nous-mêmes. Le monde va, il est parfait. Pourquoi? Parce qu'il est là. Ça se discute pas, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Le monde que Dieu nous donne, que l'univers nous donne, il est parfait pour nous, puisqu'il est là. Donc la première chose, c'est d'arrêter de regarder dehors et de regarder dedans. Et la deuxième chose, et qui répond à beaucoup de questions, j'arrive tout de suite, Nita, c'est le fait de se voir en réaction au monde. Quand je suis jaloux, au lieu de dire « je dois pas être jaloux, je dois être dans le cœur », je me dis « ah, je suis jaloux ». Et rien. Il n'y a pas à arrêter d'être jaloux, il n'y a pas à taper l'autre non plus, bien sûr. Je suis juste observateur. J'observe ce qui est, parce que ce qui est, c'est que maintenant je suis traversée par de la jalousie. Donc par moments, je suis traversée par un manque de confiance. Par moments, je suis traversée aussi par un besoin de perfection en moi et j'aimerais un monde parfait pour pouvoir être parfait dedans. Et j'ai pas du tout besoin d'un monde parfait pour parfaitement être en équilibre avec moi-même. Il y a des gens qui ont trouvé l'éveil dans des prisons. Ça ne dépend pas de l'extérieur. Après, ça veut pas dire que c'est facile. Ça veut pas dire que c'est idéal. Et ensuite, c'est comme pour les femmes qui ont accouché ici. Pendant la contraction, je suis dans l'effort. Entre les contractions, je dois revenir à un calme intense. J'avais travaillé avec des nageurs qui traversaient la manche à la nage, merci. Et eux, ils avaient ce problème. Ils nageaient en fixant une boule et ils avaient après 5 minutes de pause pour manger la barre vitaminée, 45 minutes de nage. Celui qui n'arrivait pas à se calmer en mangeant la barre, il finissait pas à l'autre côté. Quand je suis calme, je suis parfaitement calme. Quand je suis stressée, je me stresse encore mieux. J'arrive à être parfaitement stressée à fond. Et après, je suis à fond calme, je nage à fond, je suis à fond dans la barre vitaminée. Et là, il n'y a jamais de stress. Parce que je cherche jamais à être dans autre chose que ce que je suis, et c'est ça qui génère le stress. Ça donne sens ?
Oui, merci.
Voilà.